From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session générale de la prêtrise de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you to the general priest.
Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young sous la direction de Ronald Staley avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Sois loué pour ces collines ». David Beck, qui a été relevé cet après-midi de son appel de président général des jeunes gens, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our Father in heaven.
Notre Père qui est aux cieux, nous sommes reconnaissants de ce privilège d'être rassemblés dans cette session de la prêtrise de la conférence générale et de pouvoir apprendre de tes serviteurs bien-aimés. Nous sommes reconnaissants pour leur dévotion et leur préparation dans l'esprit de prière. Puisses-tu les bénir afin que tu leur donnes ton esprit pour qu'ils puissent partager avec nous leur message. Que nous puissions aussi agir avec foi sur l'inspiration que nous recevrons. Nous sommes reconnaissants de ton Fils Jésus-Christ, de son expiation. Puissions-nous toujours nous souvenir de lui. Puisse notre prêtrise, notre ministère de la prêtrise puisse être semblable au sien. Que nous puissions bénir nos familles, tes enfants, partout où ils se trouvent. Père, nous t'aimons. Nous t'exprimons notre gratitude et en offrant cette prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us.
Le chœur interprétera maintenant On This Day of Joy and Gladness. Après le cantique, nous entendrons Russell Ballard du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Ulysse Suarez, de la présidence des 70, qui prononcera son discours dans sa langue maternelle, le portugais. Larry Gibson, qui a été relevé cet après-midi de son appel de premier conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, nous adressera ensuite la parole.
One of the great pleasures I enjoy as I travel.
L'un de mes grands plaisirs lors de mes voyages à travers le monde est de pouvoir rencontrer et saluer nos missionnaires. Ces frères et sœurs extraordinaires rayonnent de la lumière du Christ. Et je suis toujours inspiré par leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ et par le service dévoué qu'ils lui rendent. Chaque fois que je leur serre la main et ressens leur esprit et leur foi remarquable, je me dis, ces jeunes formidables, nos fils et nos filles, sont vraiment un miracle. Lors de la réunion générale de prêtrise d'octobre 2002, j'ai lancé aux évêques, aux parents et aux missionnaires potentiels le défi de placer la barre plus haut pour le service missionnaire à plein temps. J'ai dit à l'époque, ce dont nous avons besoin, c'est de la plus remarquable génération de missionnaires de toute l'histoire de l'Église. Nous avons besoin de missionnaires dignes, qualifiés, d'une grande énergie spirituelle. Nous avons besoin de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous avons besoin de missionnaires pleins d'élan, réfléchis, enthousiastes et qui savent écouter les murmures du Saint-Esprit. Le monde d'aujourd'hui est bien plus difficile qu'il ne l'était il y a 13 ans. Nos jeunes gens et jeunes filles ont beaucoup plus de distractions qui les éloignent de leur préparation à la mission et à une future vie heureuse. La technologie s'est développée et presque tout le monde a accès à des appareils mobiles qui peuvent capturer l'attention de la famille humaine de Dieu, à la fois pour le plus grand bien et pour le mal le plus inconcevable. Ce soir, je m'adresse aux missionnaires actuellement en service, aux futurs missionnaires, aux jeunes qui viennent de rentrer de mission et à tous les jeunes adultes masculins de l'Église. Je prie pour que vous compreniez et réfléchissiez bien à ce que j'ai à vous dire concernant votre traversée de ces années passionnantes et exigeantes de votre vie. Dans les premiers temps de l'Église, les missionnaires avaient un entretien avec une autorité générale avant d'aller dans le champ de leur mission. Aujourd'hui, vous avez un entretien avec votre évêque et votre président de pieux. Et la plupart d'entre vous n'auront jamais d'entretien avec une autorité générale. C'est simplement le reflet de la réalité dans une Église mondiale de plus de 15 millions de membres. Je sais que je parle pour les autres autorités générales quand je vous dis que nous souhaiterions avoir la possibilité de tous vous connaître personnellement et de pouvoir vous dire que nous vous aimons et vous soutenons. Heureusement, le Seigneur nous a donné des moyens de vous connaître. Par exemple, un membre du Collège des 12 affecte chaque missionnaire à sa mission. Bien que ce processus ne se fasse pas dans le cadre d'un entretien traditionnel en face à face, la technologie et la révélation se combinent pour fournir une expérience incroyablement intime et personnelle. Je vais vous expliquer comment cela se passe. Votre photo s'affiche sur un écran d'ordinateur avec des renseignements clés fournis par votre évêque et votre président de pieux. Quand votre photo apparaît, nous regardons vos yeux et examinons vos réponses aux questions de la recommandation missionnaire. Pour ce bref moment, c'est comme si vous étiez présent et que vous nous répondiez directement. Quand nous regardons votre photo, nous espérons que vous avez passé dans tous les domaines la barre que nous avons élevée, nécessaire aujourd'hui pour être un bon et fidèle missionnaire. Puis, par le pouvoir de l'Esprit du Seigneur et sous la direction de Thomas Esmondson, nous vous affectons à l'une des 406 missions de l'Église dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas la même chose qu'un entretien en personne, mais ça s'en rapproche. Les conférences vidéo sont un autre moyen qui nous permet d'être en contact avec les dirigeants de l'Église et les membres qui vivent loin du siège de l'Église. Gardant cela à l'esprit, j'aimerais que vous qui vous préparez à faire une mission, vous qui êtes revenus de mission, et vous tous, jeunes adultes, passiez quelques minutes avec moi comme si Nous avions une discussion vidéo privée maintenant. Regardez-moi quelques minutes comme si nous étions les seuls dans la pièce où vous trouvez ce soir. Pour ma part, je vais imaginer que je vous regarde dans les yeux et que j'écoute attentivement vos réponses à quelques questions qui, je crois, m'en diront beaucoup sur la profondeur de votre témoignage et de votre dévouement à Dieu. Si je peux me permettre de paraphraser ce que j'ai dit aux missionnaires il y a 13 ans, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la plus remarquable génération de jeunes adultes de toute l'histoire de l'Église. Nous avons besoin de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous avons besoin de jeunes adultes pleins d'élan, réfléchis, passionnés et qui savent écouter les murmures du Saint-Esprit lorsqu'ils font face aux épreuves et aux tentatives quotidiennes de la vie d'un jeune saint des derniers jours de notre époque. En d'autres termes, le moment est venu d'élever la barre, non seulement pour les missionnaires, mais aussi pour les jeunes rentrant de mission et pour votre génération tout entière. Pour ce faire, réfléchissez dans votre cœur aux réponses à ces questions. Sondez-vous les Écritures régulièrement? Vous agenouillez-vous en prière pour parler à votre Père Céleste chaque matin et chaque soir? Jeûnez-vous et donnez-vous une offrande de jeûne chaque mois, même si vous êtes un pauvre étudiant en difficulté qui ne peut pas se permettre de donner beaucoup? Pensez-vous profondément au Sauveur et à son sacrifice expiatoire quand on vous demande de préparer, bénir, distribuer ou prendre la Sainte Cène? Assistez-vous aux réunions et vous efforcez-vous de sanctifier le jour de sabbat? Êtes-vous honnête dans votre foyer, à l'école, à l'église et au travail? Êtes-vous pur mentalement et spirituellement? Vous abstenez-vous de regarder de la pornographie ou des sites internet, des magazines, des films ou des applications comme Tinder ou des photos Snapchat qui vous embarrasseraient si vos parents, vos dirigeants de l'église ou votre sauveur lui-même vous voyez? Faites-vous bon usage de votre temps en évitant les technologies et les médias sociaux comme les jeux vidéo qui peuvent émousser votre sensibilité spirituelle? Y a-t-il quelque chose à changer et à réparer dans votre vie dès ce soir? Merci de ce court entretien personnel. J'espère que vous avez répondu honnêtement et attentivement à chacune de ces questions. Si vous avez des manquements vis-à-vis de l'un de ces principes simples, je vous exhorte à vous repentir courageusement et à remettre votre vie en accord avec les principes de l'Évangile qui régissent une vie de disciple juste. Maintenant, mes frères, voici un conseil supplémentaire qui vous aidera à ancrer votre témoignage de l'Évangile au plus profond de votre cœur et de votre âme. Je vous rappelle à vous qui rentrez de mission que votre préparation pour la vie et pour la famille doit être continue. MR signifie missionnaire de retour et non mormon retraité. En tant qu'ancien missionnaire, vous devriez œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de votre plein gré et produire beaucoup de justice. Utilisez les compétences acquises durant votre mission pour faire du bien chaque jour aux gens qui vous entourent. Que vos priorités ne passent pas du service pour autrui à seulement vos études, votre travail ou vos activités sociales. Équilibrez votre vie par des expériences spirituelles qui vous rappellent de continuer à servir les autres au quotidien et vous y préparent. Au cours de votre mission, vous avez appris l'importance de rendre visite aux gens chez eux. J'espère que tous nos jeunes adultes, qu'ils aient fait une mission ou non, comprennent l'importance de visiter les personnes seules, malades ou découragées, non seulement parce que c'est notre appel, mais aussi parce que nous aimons véritablement notre Père Céleste et ses enfants. Vous qui faites vos études secondaires et vous préparez à faire une mission, je vous recommande de participer au séminaire et d'obtenir votre diplôme. Vous, jeunes adultes, devriez être inscrits à l'Institut de religion. Si vous faites vos études dans un établissement d'enseignement de l'Église, incluez chaque semestre dans votre programme un cours d'éducation religieuse. Au cours de cette période importante de préparation à la mission ou au mariage éternel et dans votre vie d'adulte, vous devez continuer à trouver des moyens d'apprendre et grandir, d'être inspiré et guidé par le Saint-Esprit. L'étude minutieuse de l'Évangile au séminaire, à l'Institut, au cours d'éducation religieuse, avec l'aide de la prière, peut vous aider à atteindre ce but. Que vous soyez dans un établissement d'enseignement de l'Église ou non, que vous soyez à l'université ou non, ne pensez pas que vous êtes trop occupé pour étudier l'Évangile. Le séminaire, l'Institut ou le cours d'éducation religieuse vous apporteront de l'équilibre dans la vie et seront un plus pour votre éducation séculière en vous donnant la possibilité de passer du temps à étudier les Écritures et les enseignements des prophètes et des apôtres. Je vous invite à vous renseigner à ces quatre nouveaux cours merveilleux et à y participer. Et n'oubliez pas que les cours et les activités offertes par votre centre d'institut local ou votre paroisse ou pieux de jeunes adultes seront également là pour vous permettre de rencontrer d'autres jeunes adultes et vous édifier, vous inspirer les uns les autres en apprenant et en grandissant spirituellement et en vous liant d'amitié. Mes frères, si vous mettez de côté votre téléphone portable et regardez un peu autour de vous, vous pourrez même rencontrer votre future compagne éternelle. Ce qui m'amène à un autre conseil auquel je suis sûr que vous attendiez. Vous, jeunes adultes célibataires, devez faire des sorties en couple et vous marier. Arrêtez de retarder l'échéance. Je sais que certains d'entre vous ont peur de fonder une famille. Cependant, si vous épousez la bonne personne au bon moment et au bon endroit, vous ne devez pas craindre. En fait, vous éviterez beaucoup des problèmes que l'on peut rencontrer si vous œuvrez avec zèle à sortir en couple, à faire la cour à une jeune fille, à vous marier dans la justice. Ne lui envoyez pas de textos. Utilisez votre propre voix pour vous présenter aux filles justes de Dieu qui vous entourent. Elles seront stupéfaites d'entendre réellement d'une voix humaine et elles vous diront peut-être oui. Je vous témoigne, mes frères de la prêtrise, que le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à réparer tout ce qui a besoin d'être réparé dans notre vie grâce à son sacrifice expiatoire. Ce soir, alors que nous nous préparons à célébrer le dimanche de Pâques, faites une pause avec moi pour vous souvenir du don de l'expiation du Christ. Souvenez-vous que notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ vous connaissent le mieux et vous aiment le plus. Par l'expiation, le Rédempteur a pris sur lui nos difficultés, nos douleurs et nos péchés. Le Sauveur du monde est venu pour comprendre chacun de nous individuellement en faisant l'expérience de nos espoirs déçus, nos difficultés et nos malheurs par ses souffrances à Gethsémané et sur la croix. Il est mort dans un dernier acte d'amour et a été déposé dans un tombeau neuf en cette nuit fatidique. Le dimanche matin, Jésus est ressuscité d'entre les morts, promettant une nouvelle vie à chacun de nous. Le Seigneur ressuscité a ensuite commandé à ses disciples d'enseigner à tous d'avoir foi au Christ, de se repentir de leurs péchés, de se faire baptiser, de recevoir le don de l'Esprit, du Saint-Esprit et de persévérer jusqu'à la fin. Mes frères, nous savons que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé sont apparus à Joseph Smith le prophète et ont rétabli par son intermédiaire la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Soyez forts, mes frères. Respectez les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ promet que tout ce que nous désirons en justice sera nôtre. Les dirigeants de l'Église comptent sur vous. Nous avons besoin que chacun d'entre vous, jeunes adultes, se prépare à se marier, à servir et à diriger dans les jours à venir. Et je prie pour cela, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères, je me sens tout petit devant le privilège qui est le mien de m'adresser aujourd'hui à vous, détenteur de la prêtrise de Dieu de toute l'Église. Le président Monson a dit un jour, il peut parfois être effrayant de vivre dans ce monde. Le tissu moral de la société semble s'effilocher à une vitesse alarmante. Personne, jeune, vieux ou entre deux âges, n'est à l'abri des choses qui ont le potentiel de nous faire chuter et de nous détruire. Mais nous ne devons pas désespérer. Nous sommes en guerre contre le péché. C'est une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Notre Père Céleste nous a donné les outils dont nous avons besoin pour cela. Chacun d'entre nous, jeunes ou plus âgés, fait face au quotidien à la guerre mentionnée par le président Monson. L'ennemi et ses anges essaient de nous détourner de la voie. Leur but est de nous plonger dans la confusion afin que nous nous détournions des alliances que nous avons contractées avec le Seigneur, perdant ainsi la vision de notre héritage éternel. Ils connaissent bien le plan que notre Père Céleste a préparé pour nous, ses enfants, car ils étaient aussi présents lors du grand conseil dans les cieux lorsqu'il nous a été présenté. Ils s'efforcent de profiter de nos faiblesses et de nos fragilités pour nous tromper par des brouillards de ténèbres qui aveuglent les yeux et endurcissent le cœur des enfants des hommes et les entraînent sur de larges routes afin qu'ils périssent et se perdent. Néanmoins, en dépit de l'opposition que nous rencontrons, le président Monson a enseigné qu'il s'agit d'une guerre que nous pouvons gagner et que nous gagnerons. Le Seigneur a confiance en notre capacité et notre détermination d'y parvenir. Les Écritures contiennent d'innombrables exemples d'hommes et de femmes qui ont remporté des guerres, même dans des situations particulièrement difficiles. L'un de ces exemples est celui du capitaine Moroni dans le Livre de Mormon. Il a eu le courage de défendre la vérité à une époque où il y avait énormément de querelles, de dissensions et de guerres qui mettaient en péril la survie même de la nation néphite tout entière. Bien qu'excellent dans l'exercice de ses fonctions, Moroni est resté humble. Cette qualité et d'autres ont fait de lui un instrument extraordinaire dans les mains de Dieu à cette époque. Alma rapporte que, si tous les hommes avaient été comme Moroni, les puissances même de l'enfer auraient été ébranlées à jamais, et que le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Toutes les qualités de Moroni découlaient de sa grande foi en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, et de sa détermination de suivre la voie de Dieu et de ses prophètes. Dans un sens, nous devons tous aujourd'hui devenir des capitaines Moroni des temps modernes afin de remporter les guerres que nous menons contre les influences du mal. Je connais un jeune diacre qui s'est transformé en un capitaine Moroni des temps modernes. Il s'efforce de suivre les conseils de ses parents et des dirigeants de l'Église, et sa foi et sa détermination sont mises à l'épreuve chaque jour, malgré son jeune âge. Un jour, alors qu'il rejoignait des camarades de classe, il s'est retrouvé à sa surprise dans une situation particulièrement difficile et inconfortable. Ses amis étaient en train de regarder des images pornographiques sur leur téléphone portable. À ce moment précis, il a décidé que sa foi et sa détermination de vivre de manière juste étaient plus importantes que sa popularité. Dans les secondes qui ont suivi, il a rassemblé tout son courage et a dit à ses camarades que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bien. Il leur a dit également qu'il ferait mieux d'arrêter tout de suite, sans quoi il deviendrait esclave de cette pratique. La plupart de ses camarades se sont moqués de son conseil en disant que cela faisait partie de la vie et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Toutefois, l'un d'entre eux a écouté le conseil de ce jeune homme et a décidé d'arrêter. L'exemple de ce diacre a eu une influence bénéfique sur au moins un de ses camarades. Il ne fait pas de doute que lui et son ami ont subi des moqueries et des persécutions du fait de cette décision. Mais d'un autre côté, ils avaient suivi l'exhortation qu'Alma a adressée à son peuple lorsqu'il a dit « Et maintenant, je vous dis, à vous tous qui désirez suivre la voie du bon berger, sortez d'entre les méchants et soyez séparés et ne touchez pas à leurs choses impures. » La brochure « Jeunes soyez forts » contient ce conseil adressé par la première présidence aux jeunes de l'Église. Vous êtes responsable des choix que vous faites. Dieu se soucie de vous et il vous aidera à faire de bons choix, même si votre famille et vos amis utilisent mal leur libre arbitre. Ayez le courage moral de rester ferme en obéissant à la volonté de Dieu, même s'il vous faut être le seul. Ce faisant, vous devenez un exemple à suivre pour les autres. La guerre du bien contre le mal se poursuivra tout au long de notre vie, car le but de l'adversaire est de rendre tous les gens malheureux comme lui. Satan et ses anges chercheront à voiler notre esprit et à exercer le contrôle sur nous en nous incitant à pécher. Ils corrompront tout ce qui est bon s'ils le peuvent. Néanmoins, il est important de bien comprendre qu'ils n'auront de pouvoir sur nous que si nous le leur permettons. Les Écritures contiennent également plusieurs exemples de personnes qui ont laissé l'adversaire prendre du pouvoir sur elles, ce qui leur a apporté la confusion et les a même détruites avant la fin de leur vie. Nous devons être attentifs à ces dangers. Nous ne pouvons nous laisser entraîner dans la confusion par des messages populaires facilement acceptés du monde et qui contredisent la doctrine et les principes de vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de ces messages profanes ne sont rien de plus qu'un moyen qu'utilise notre société pour justifier ses péchés. Nous devons nous rappeler qu'à la fin, nous nous tiendrons tous devant le Christ pour être jugés selon nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il nous faudra faire preuve d'un grand courage pour choisir le bien lorsque nous nous retrouverons face à ces messages profanes. Nous pouvons tous recevoir la force de choisir le bien si nous recherchons le Seigneur et plaçons toute notre foi et toute notre confiance en lui. Mais comme l'enseignent les Écritures, nous devons avoir le cœur sincère et une intention réelle. Alors le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Cette connaissance, acquise par l'intermédiaire du Saint-Esprit, est tout simplement notre témoignage, et elle renforce notre foi et notre détermination de suivre les enseignements de l'Évangile rétabli dans ces derniers jours, malgré les messages populaires que le monde nous adresse. Notre foi et notre témoignage deviendront un véritable bouclier pour nous protéger des traits enflammés et des attaques de l'adversaire. Il nous guidera en lieu sûr à travers l'obscurité et la confusion qui règnent dans le monde aujourd'hui. J'ai appris ce principe lorsque j'étais jeune missionnaire. Mon collègue et moi servions dans une toute petite branche de l'Église très éloignée. Nous avions essayé de parler à tous les habitants de la ville. Nous avions été très bien reçus, mais ces gens aimaient débattre sur les Écritures et nous demander des preuves concrètes de la véracité de ce que nous enseignons. Je me rappelle que, chaque fois que nous essayions de prouver quelque chose à ces gens, l'Esprit de Dieu nous quittait et nous nous sentions complètement perdus et confus. Nous avons ressenti que nous devrions davantage nous appuyer sur notre témoignage pour enseigner les vérités de l'Évangile. Je me souviens que lorsque nous avons rendu notre témoignage de tout notre cœur, une confirmation puissante et silencieuse venant du Saint-Esprit a rempli la pièce, ne laissant plus de place au débat ou à la confusion. J'ai alors appris qu'aucune force du mal n'est capable de confondre, de tromper ou de pervertir le pouvoir du témoignage sincère d'un vrai disciple du Sauveur Jésus-Christ. Comme l'a enseigné le Seigneur, l'adversaire désire nous cribler comme le froment, pour que nous perdions ainsi notre capacité d'exercer une influence bénéfique sur le monde. Mes chers frères, du fait de la vague de confusion et de doute qui se répand de par le monde aujourd'hui, nous devons nous tenir plus fermement que jamais à notre témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, notre capacité de défendre la vérité s'accroîtra beaucoup. Nous remporterons les batailles quotidiennes contre le mal, et au lieu de tomber sur les champs de bataille de la vie, nous rallierons d'autres personnes à la cause du Maître. J'invite chacun à trouver la sécurité dans les enseignements contenus dans les Écritures. Le capitaine Moroni a conjugué sa foi en Dieu et son témoignage de la vérité à la connaissance et la sagesse qui se trouvent dans les Écritures. Il savait qu'ainsi, il serait béni par le Seigneur et qu'il obtiendrait de nombreuses victoires, ce qui s'est effectivement produit. J'invite chacun à trouver la sécurité dans les paroles de nos prophètes actuels. Le président Monson a dit, « Nous qui avons été ordonnés à la prêtrise de Dieu, nous pouvons faire changer les choses. Quand nous restons purs et honorons notre prêtrise, nous devenons des exemples de droiture que d'autres peuvent suivre et ainsi aider à illuminer un monde de plus en plus sombre. » Finalement, j'invite chacun à se fier au mérite et au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. À travers son sacrifice expiatoire, nous pouvons gagner toutes les guerres de notre époque, même au milieu de nos difficultés, de nos épreuves et de nos tentations. Ayons confiance en son amour et en son pouvoir salvateur. Le Christ a lui-même enseigné, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous rends témoignage de ces vérités sacrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. »
Mon père m'a enseigné une leçon importante quand j'étais jeune. Il avait senti que je m'étais pris de passion pour les choses temporelles. Quand j'avais de l'argent, je le dépensais immédiatement, presque toujours pour moi-même. Un après-midi, il m'a emmené à acheter de nouvelles chaussures, au deuxième étage du centre commercial. Il m'a invité à regarder par la fenêtre avec lui. Il m'a demandé « Que vois-tu ? » « Des bâtiments ? Le ciel ? Des gens ? Combien ? Beaucoup ! » Puis il a sorti cette pièce de sa poche. En me la donnant, il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai immédiatement su que c'était un dollar d'argent. S'appuyant sur sa connaissance de la chimie, il a dit « Si tu fais fondre ce dollar d'argent et le mélange aux bons ingrédients, tu obtiendras du nitrate d'argent. Si on recouvrait cette fenêtre de nitrate d'argent, que verrais-tu ? » Je n'en avais aucune idée. Il m'a donc emmené vers un miroir de plein pied et m'a demandé « Maintenant, que vois-tu ? » « Je me vois. » Puis il a répondu « Non, ce que tu vois, c'est l'argent qui renvoie ton reflet. Si tu te concentres sur l'argent, tout ce que tu verras, c'est toi. Et comme un voile, cela t'empêchera de voir clairement la destinée éternelle que notre Père Céleste a préparée pour toi. » Il a continué, « Larry, ne recherche pas les choses du monde, mais recherche premièrement le royaume de Dieu et attache-toi à faire régner sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Il m'a dit de garder le dollar et de ne jamais le perdre. Chaque fois que je le regardais, je devais penser à la destinée éternelle que notre Père Céleste a pour moi. J'aimais mon père et sa manière d'enseigner. Je voulais être comme lui. Il a implanté dans mon cœur le désir d'être un bon père et mon espoir le plus cher est d'être à la hauteur de son exemple. Notre bien-aimé président Thomas S. Monson a souvent dit que nos décisions déterminent notre destinée et ont des conséquences éternelles. Ne devrions-nous donc pas acquérir une vision claire de notre destinée éternelle, en particulier celle que notre Père Céleste veut nous voir accomplir, la paternité éternelle? Que notre destinée éternelle motive toutes nos décisions. Aussi difficiles que soient ces décisions, notre Père nous soutiendra. J'ai appris la puissance qu'a une telle vision quand j'ai participé avec mes fils de 12 et 13 ans à une compétition 50-20. Une compétition 50-20 consiste à marcher 80 km ou 50 miles en moins de 20 heures. Nous avons commencé à 21h et avons marché toute la nuit et une grande partie du jour suivant. Cela nous a pris 19 heures épuisantes, mais nous avons réussi. Sur le chemin du retour, nous avons littéralement rampé dans la maison où mon épouse et leur mère formidable avaient préparé un succulent dîner auquel nous n'avons pas touché. Mon plus jeune fils, totalement épuisé, s'est affalé dans le canapé, pendant que mon fils aîné rampait dans les escaliers pour aller dans sa chambre. Après un repos douloureux, je suis allé voir mon plus jeune fils pour m'assurer qu'il était toujours en vie. « Est-ce que ça va ?» ai-je demandé. « Papa, je n'ai jamais rien fait d'aussi dur. » Et je ne veux plus avoir à le faire. Je n'allais pas lui dire que moi non plus, je ne le referai plus jamais. Au lieu de cela, je lui ai dit à quel point j'étais fier qu'il ait accompli quelque chose d'aussi dur. Je savais que ce serait une préparation pour les autres choses difficiles qu'il aurait à affronter à l'avenir. Cette pensée en tête, j'ai dit, « Mon garçon, je te fais cette promesse. Quand tu iras en mission, tu n'auras jamais à parcourir 80 km en une journée. » Très bien, papa. Alors, j'irai en mission. Ces simples mots ont rempli mon âme de reconnaissance et de joie. Puis je suis descendu voir mon fils aîné. Je me suis allongé à côté de lui, puis l'ai touché. Je lui ai demandé, « Fiston, ça va ?»« Papa, je n'ai jamais rien fait d'aussi dur, et je ne veux plus avoir à le faire. » Ses yeux se sont fermés, puis se sont rouverts, et il a dit, « Sauf si mon fils me le demande. » Des larmes me sont venues aux yeux, alors que je lui exprimais ma reconnaissance de l'avoir pour fils. Je lui ai dit que je savais qu'il serait un bien meilleur père que moi. Mon cœur débordait de joie, parce qu'à son jeune âge, il comprenait déjà que l'un de ses devoirs les plus sacrés de la prêtrise était d'être père. Il n'avait aucune peur de ce rôle, ni de ce titre, le titre que Dieu lui-même veut que nous utilisions quand nous nous adressons à lui. Je savais que j'avais la responsabilité de nourrir les braises de la paternité qui brûlaient en mon fils. Ces paroles du Sauveur ont pris un sens plus profond pour moi en tant que père. Je cite, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Fin de citation. Je suis heureux d'être marié père, marié à une fille élue de parents célestes. Je l'aime. C'est l'un des aspects les plus épanouissants de ma vie. Mon espérance cette nuit-là, était que mes cinq fils et leurs sœurs voient toujours en moi la joie que procure le mariage éternel, la paternité et la famille. Père, je suis sûr que vous avez entendu le dicton. Prêchez tout le temps l'Évangile. Et si nécessaire, utilisez des mots. Vous enseignez chaque jour à vos enfants ce que c'est d'être père. Vous posez une fondation pour la prochaine génération. Vos fils apprendront comment être mari et père en observant la manière dont vous remplissez ces rôles. Par exemple, savent-ils à quel point vous aimez et chérissez leur mère et à quel point vous aimez être père? Ils apprendront comment traiter leurs futures femmes et leurs enfants en regardant comment vous traitez chacun d'eux, tout comme le ferait notre Père Céleste. De votre exemple, ils peuvent apprendre comment respecter, honorer et protéger les femmes. Dans votre foyer, ils peuvent apprendre à présider leur famille dans l'amour et la justice. Ils peuvent apprendre à pourvoir aux besoins vitaux et assurer la protection de leur famille, de manière temporelle et spirituelle. Mes frères, avec toute l'énergie de mon âme, je vous demande de réfléchir à cette question. Est-ce que vos fils, vos voix, vous efforcez de faire ce que notre Père Céleste veut qu'il fasse? Je prie pour que la réponse soit oui. Si la réponse est non, il n'est pas trop tard pour changer, mais vous devez commencer aujourd'hui. Je témoigne que notre Père Céleste vous aidera. Maintenant, jeunes gens, vous savez que vous vous préparez à recevoir la prêtrise de Melchisédek, à recevoir les ordonnances sacrées du Temple, à remplir votre devoir et votre obligation de faire une mission à plein temps, et puis, sans attendre trop longtemps, à vous marier au Temple, à une fille de Dieu et à fonder une famille. Vous devrez ensuite guider votre famille dans les choses spirituelles, selon l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai demandé à beaucoup de jeunes gens à travers le monde, « Pourquoi êtes-vous ici ?» Jusqu'ici, pas un seul n'a répondu, pour apprendre à être père, pour que je sois préparé et qualifié à recevoir tout ce que mon Père Céleste a. Examinons ensemble vos devoirs de la prêtrise décrits à la section 20 des Doctrines et Alliances. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, tandis que j'applique ces devoirs à votre service dans votre famille. Invitez toute votre famille à venir au Christ. Toujours veillez sur eux, d'être avec eux et de les fortifier. Prêchez, enseignez, expliquez, exhortez et baptisez les membres de votre famille. Les exhortez à prier à haute voix et en secret et à remplir tous les devoirs de famille. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans votre famille, ni de dureté réciproque, ni de mensonges, de calomnies ou de médisances. Veillez à ce que votre famille se réunisse souvent. Aidez votre père dans ses devoirs de patriarche. Soutenir votre mère avec la force de la prêtrise quand il n'y a pas de père. Quand on vous le demande, ordonnez d'autres prêtres, instructeurs et diacres dans votre famille. Ces choses ne ressemblent-elles pas au travail, au rôle d'un père? L'accomplissement de nos devoirs de la prêtrise d'Aaron vous prépare, vous, jeunes gens, à la paternité. La documentation du devoir envers Dieu peut vous aider à apprendre comment élaborer des projets spécifiques pour accomplir vos devoirs. Elle peut vous servir de guide et d'aide quand vous recherchez la volonté de notre Père Céleste et vous vous fixez des buts pour l'accomplir. Notre Père Céleste vous a emmené ici à cette époque particulière pour une œuvre spéciale et un dessein éternel. Il veut que vous voyiez clairement et compreniez ce qu'est ce dessein. Il est votre Père et vous pouvez toujours lui demander de vous guider. Je sais que notre Père Céleste se soucie de chacun de nous individuellement et a un plan personnel pour que nous accomplissions notre destinée éternelle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, nous aider à surmonter nos imperfections grâce à l'expiation. Il nous a bénis en nous donnant le Saint-Esprit comme témoin, compagnon et guide vers notre destination éternelle, si nous nous appuyons sur lui. Puissions-nous tous jouir de la plénitude des bénédictions de notre Père dans cette ville et de l'accomplissement de son œuvre et sa gloire en devenant des pères pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On a signal from the conductor, au signal du directeur du chœur, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Peuple du monde, écoutez donc ». J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous. Après mon discours, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence.
Nations see it as force.
In the late 18th century,
à la fin du XVIIIe siècle, Catherine II de Russie a annoncé qu'elle visiterait le sud de son empire, accompagnée de plusieurs ambassadeurs étrangers. Le gouverneur de cette région, Grigori Potemkin, voulait à tout prix impressionner ses visiteurs. Il a donc pris de grandes mesures pour mettre en valeur les accomplissements du pays. Pendant une partie du voyage, Catherine a descendu le Dnieper, montrant fièrement aux ambassadeurs les hameaux florissants le long de la rive, remplis de villageois travailleurs et heureux. Il n'y avait qu'un seul problème, ce n'était qu'une grande illusion. Il est dit que Potemkin avait monté des façades de magasins et d'habitations en carton-pâte. Il avait même placé des paysans à l'air occupé pour donner l'impression d'une économie prospère. Une fois que le groupe disparaissait dans la courbe du fleuve, les hommes de Potemkin remballaient les villages factices et se précipitaient en aval pour le prochain passage de Catherine. Bien que les historiens modernes aient mis en doute la véracité de cette histoire, le terme « village Potemkin » est entré dans le vocabulaire mondial. Il désigne maintenant toute tentative de faire croire aux autres que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes vraiment. Vouloir paraître à notre avantage fait partie de la nature humaine. C'est pour cette raison que nous sommes nombreux à travailler si dur sur l'aspect extérieur de notre maison et que nos jeunes frères de la prêtrise d'Aaron s'assurent que chacun de leurs cheveux est en place, juste au cas où ils rencontreraient une certaine personne. Il n'y a rien de mal à cirer nos chaussures, sentir bon, ou même cacher la vaisselle sale avant que les instructeurs au foyer arrivent. Cependant, poussé à l'extrême, ce désir d'impressionner peut passer de l'utile au trompeur. Les prophètes du Seigneur ont toujours élevé une voix d'avertissement contre les personnes qui honorent le Seigneur de la bouche et des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Le Seigneur faisait preuve de compréhension et de compassion à l'égard des pécheurs au cœur humble et sincère. Mais il se mettait dans une juste colère contre les hypocrites comme les scribes, les pharisiens et les sadducéens qui essayaient de paraître justes pour recevoir les louanges, l'influence et les richesses du monde, tout en opprimant le peuple à qui ils auraient dû faire du bien. Le Sauveur les a comparés à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. De nos jours, le Seigneur a des paroles tout aussi fortes pour les détenteurs de la prêtrise qui tentent de couvrir leurs péchés ou d'assouvir leur orgueil ou leur vaine ambition. Il a dit que quand quelqu'un fait cela, les cieux se retirent, l'Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu'il est retiré, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tentons-nous parfois de paraître pratiquants, prospères et dévoués, quand à l'intérieur, comme Jean le Révélateur l'a dit aux Éphésiens, nous avons abandonné notre premier amour? Dans certains cas, c'est peut-être simplement que nous avons perdu de vue l'essence même de l'Évangile, considérant erronément que l'apparence de la piété est ce qui en fait la force. C'est particulièrement dangereux quand nous utilisons les expressions extérieures du disciple pour impressionner les autres pour notre profit ou pour gagner en influence. C'est alors que nous risquons d'entrer en territoire pharisien. Et il est grand temps d'examiner notre cœur pour procéder à un changement de trajectoire immédiat. La tentation de paraître meilleur que nous le sommes ne se trouve pas uniquement dans notre vie personnelle, mais également dans nos appels dans l'Église. Par exemple, je connais un pieu où les dirigeants s'étaient fixés des objectifs ambitieux pour l'année. Tous les objectifs paraissaient louables, mais ils se concentraient sur des déclarations nobles et impressionnantes ou sur des chiffres et des pourcentages. Après que les dirigeants ont eu discuté de ces objectifs et se sont mis d'accord, quelque chose a commencé à troubler le président de pieu. Il a pensé aux membres de son pieu, comme la jeune mère avec des enfants en bas âge, qui avait récemment perdu son mari. Il a pensé aux membres aux prises avec des doutes, ou la solitude, de graves problèmes de santé, ou qui n'avaient pas d'assurance maladie. Il a pensé aux membres dans les difficultés d'un mariage brisé, des dépendances, du chômage ou d'une maladie mentale. Et plus il pensait à eux, plus il se posait cette question qui pousse à l'humilité. Est-ce que nos nouveaux objectifs feront la différence dans la vie de ces membres? Il a commencé à se demander comment les objectifs de leur pieu auraient pu être différents s'ils s'étaient d'abord demandé quel est notre ministère? Le président de pieu a donc réuni son conseil et ensemble, ils ont changé leur orientation. Ils ont décidé qu'ils ne permettraient pas que les affamés, les nécessiteux, les nus, les malades et les affligés passent à côté d'eux sans qu'ils les remarquent. Ils se sont fixés de nouveaux objectifs, reconnaissant que la réussite de ces nouveaux objectifs ne pourrait peut-être pas toujours être mesurée, du moins par l'homme. Car comment pourrait-on mesurer un témoignage personnel, l'amour de Dieu ou la compassion pour autrui? Mais ils savaient aussi que ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Beaucoup de ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Je me demande si les objectifs de nos organisations et nos objectifs personnels ne sont pas l'équivalent moderne d'un village Potemkin. Semble-t-il impressionnant de loin sans répondre aux véritables besoins de nos semblables bien-aimés? Mes chers amis et co-détenteurs de la prêtrise, si Jésus-Christ était assis parmi nous et nous demandait de faire rapport de notre intendance, je ne suis pas sûr qu'il se concentrerait sur les programmes et les statistiques. Ce que le Sauveur voudrait connaître, c'est l'état de notre cœur. Il voudrait savoir combien nous aimons et servons les personnes sous notre responsabilité, à commencer par notre conjoint et nos enfants, et comment nous allégeons leur fardeau quotidien. Et le Sauveur voudrait savoir comment vous et moi nous rapprochons de lui et de notre Père céleste. Il peut être utile de sonder notre propre cœur. Par exemple, nous pouvons nous demander pourquoi nous servons dans l'Église de Jésus-Christ. Nous pourrions même nous demander pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à cette réunion. Je suppose que si nous devions répondre à cette question à un niveau superficiel, je dirais que je suis ici parce que le président Monson m'a demandé de faire un discours. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. De plus, ma femme attend de moi que je vienne. Et comment puis-je lui dire non? Mais nous savons tous qu'il y a de bien meilleures raisons d'assister à nos réunions et de mener une vie de disciple engagé de Jésus-Christ. Je suis ici parce que je désire de tout mon cœur suivre mon maître, Jésus-Christ. Je désire ardemment faire tout ce qu'il exige de moi dans cette grande cause. J'ai soif d'être édifié par son Saint-Esprit et d'entendre la voix de Dieu quand il s'exprime par l'intermédiaire de ses serviteurs ordonnés. Je suis ici pour devenir un homme meilleur, pour être élevé par les exemples inspirants de mes frères et sœurs en Christ et apprendre comment servir plus efficacement les personnes dans le besoin. En bref, je suis ici parce que j'aime mon Père Céleste et son Fils, Jésus-Christ. Je suis sûr que c'est également la raison pour laquelle vous êtes là. C'est pourquoi nous sommes prêts à faire des sacrifices pour suivre le Sauveur et ne pas simplement nous contenter de déclarations. C'est pourquoi nous détenons sa sainte prêtrise avec honneur. Que votre témoignage soit fort et sain ou que votre activité dans l'Église ressemble plus à un village Potemkin, la bonne nouvelle est que vous pouvez développer la force que vous possédez déjà. Ici, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pouvez mûrir spirituellement et vous rapprocher du Sauveur en mettant en pratique les principes de l'Évangile jour après jour, avec patience et persévérance. Même le plus petit acte de disciple ou la plus petite braise de foi peut devenir le feu de joie éclatant d'une vie consacrée. C'est d'ailleurs ainsi que commencent la plupart des feux de joie, par une simple étincelle. Donc, si vous vous sentez petit et faible, s'il vous plaît, venez simplement au Christ, qui renforce les choses faibles. Le plus faible d'entre nous, par la grâce de Dieu, peut devenir un géant spirituel, parce que le Seigneur ne fait point exception de personne. Il est notre Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. J'ai l'intime conviction que si Dieu peut tendre la main et soutenir un pauvre réfugié allemand issu d'une famille modeste dans un pays détruit par la guerre, à des milliers de kilomètres du siège de l'Église, alors il peut vous tendre la main. Mes chers frères en Christ, le Dieu de la création, qui a insufflé la vie dans l'univers, a sûrement le pouvoir d'insuffler la vie en vous. Assurément, il peut faire de vous l'être spirituel authentique de lumière et de vérité que vous désirez être. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et être purifiés de toute iniquité. Et si nous continuons à adopter et à vivre de vrais principes dans notre situation personnelle et dans notre famille, nous finirons par atteindre le point où nous n'aurons plus faim et n'aurons plus soif. Car l'agneau qui est au milieu du trône nous paîtra et nous conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Mais la guérison ne peut avoir lieu si nous nous cachons derrière des façades personnelles, dogmatiques et organisationnelles. Ce genre de vie artificielle de disciples nous empêche non seulement de nous voir tels que nous sommes vraiment, mais nous empêche aussi de véritablement changer grâce au miracle de l'expiation du Sauveur. L'Église n'est pas un salon automobile, un lieu où nous afficher afin que les autres admirent notre spiritualité, nos capacités et notre prospérité. Elle est un peu plus comme une station-service, où les véhicules en panne viennent pour qu'on les répare et les remette en état. Et n'avons-nous pas tous besoin d'être réparés, entretenus et remis en état? Nous venons à l'Église non pour ignorer nos problèmes, mais pour les guérir. Et en tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la responsabilité supplémentaire de paître le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui nous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Souvenez-vous, mes frères, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le plus grand, le plus accompli des hommes qui ait jamais marché sur cette terre était aussi le plus humble. Il a rendu certains de ses services les plus impressionnants en privé, en compagnie de quelques témoins, à qui il a demandé de ne parler à personne de ce qu'il avait fait. Quand on l'appelait bon, il refusait immédiatement le compliment, insistant sur le fait que seul Dieu est véritablement bon. Il est clair que les louanges du monde n'avaient aucune valeur à ses yeux. Son seul but était de servir son Père et de toujours faire ce qui lui est agréable. Nous ferions bien de suivre l'exemple de notre Maître. Mes chers frères, voici notre grand et saint appel. Être agent de Jésus-Christ, aimer comme il a aimé, servir comme il a servi, fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent, et veiller sur les pauvres et les nécessiteux, et prendre soin des veuves et des orphelins. Je prie, mes frères, pour que lorsque nous servirons dans nos familles, collèges, paroisses, pieux, collectivités et nations, nous résistions à la tentation d'attirer l'attention sur nous et que nous nous efforcions plutôt d'obtenir un honneur bien plus grand, celui de devenir de véritables et d'humbles disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous nous retrouverons à marcher sur le chemin qui conduit à notre moi le meilleur, le plus authentique et le plus noble. J'en témoigne au nom de notre Maître, au nom de Jésus-Christ. Amen.
I am grateful for the trust.
Je suis heureux de la confiance qui m'est donnée de parler à la prêtrise de Dieu sur toute la terre. Je ressens le poids de cette occasion à cause de la confiance que le Seigneur a placée en vous, du fait que vous avez accepté la prêtrise. Le fait d'avoir accepté la prêtrise vous donne le droit de parler et d'agir au nom de Dieu. Ce droit ne devient une réalité que lorsque vous êtes inspiré par Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pouvez parler en son nom. Ce n'est qu'alors que vous pouvez agir en son nom. Peut-être avez-vous fait l'erreur de penser que ce n'est pas si difficile de vous être dit « Je peux recevoir de l'inspiration si l'on me demande de faire un discours ou si j'ai besoin de donner une bénédiction de la prêtrise ». Le jeune diacre ou le jeune instructeur pourrait se réconforter en pensant que lorsqu'il sera plus grand ou qu'il sera appelé en mission, il saura ce que Dieu dira ou fera. Pensez au jour où vous devrez savoir ce que Dieu dirait et ce qu'il ferait. Nous avons tous connu ce jour, quel que soit notre appel dans la prêtrise. J'ai grandi dans le champ de la mission pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Est des États-Unis. Les membres vivaient loin les uns des autres et l'essence était strictement rationnée. J'étais le seul diacre de la branche. Les membres donnaient leur enveloppe d'offrande de jeûne au président de branche quand il venait chez nous à la réunion de jeûne et de témoignage. Ce qu'était la chapelle. Quand j'ai eu 13 ans, nous sommes allés vivre en Utah, dans une grande paroisse. Je me souviens de la première fois où l'on m'a donné la tâche d'aller de maison en maison collecter les offrandes de jeunes. J'ai regardé le nom sur l'une des enveloppes et j'ai remarqué qu'il était le même que celui de l'un des trois témoins du Livre de Mormon. Donc j'ai frappé à la porte avec confiance. L'homme a ouvert la porte, m'a regardé, puis d'un air menaçant, m'a crié de m'en aller. Je suis parti la tête basse. Il y a plus de 70 ans de cela, mais je me souviens encore d'avoir eu, sur le seuil d'une porte, le sentiment que j'aurais dû faire ou dire quelque chose. Si seulement j'avais prié avec foi quand je suis sorti de chez moi ce jour-là, j'aurais pu être inspiré de rester un peu plus longtemps sur le pas de la porte, de sourire et de dire quelque chose comme « Cela a été un plaisir de faire votre connaissance. Merci de ce que vous et votre famille avez donné par le passé. » Si j'avais fait cela, il aurait peut-être été encore plus irrité. Il se serait peut-être senti insulté. Mais je sais ce que moi j'aurais pu ressentir. Au lieu de la tristesse que j'éprouvais en m'en allant, j'aurais ressenti un peu de fierté dans mon cœur et mon esprit me serait dit « Bien joué ». Nous devons tous parler et agir au nom de Dieu dans les moments où notre seul jugement ne suffit pas sans inspiration. Ces moments peuvent survenir quand nous n'avons pas le temps de nous préparer. Cela m'est souvent arrivé. Ainsi, il y a plusieurs années, dans un hôpital, un père a dit que les médecins lui avaient annoncé que sa fille de 5 ans, gravement blessée, allait mourir d'une minute à l'autre. Au moment où j'ai placé mes mains sur le seul endroit de sa tête qui n'était pas recouvert de bandage, je devais savoir, en serviteur de Dieu, ce qu'il ferait et dirait. La promesse qu'elle vivrait est venue à mon esprit et à mes lèvres. Le médecin qui se tenait tout près de moi a toussé de dégoût et m'a demandé de sortir. Je suis sorti de cette chambre d'hôpital avec un sentiment de paix et d'amour. La petite fille a vécu et a marché le long de l'allée centrale lors d'une réunion de Sainte-Seine le dernier jour que j'ai passé dans cette ville. Je me souviens encore de la joie et de la satisfaction que j'ai ressentie grâce à ce que j'avais dit et fait au servir du Seigneur pour cette petite fille et sa famille. La différence entre mes sentiments à l'hôpital et la tristesse que j'ai ressentie en m'éloignant de cette porte quand j'étais diacre est venue de ce que j'avais appris au sujet du lien entre la prière et le pouvoir de la prêtrise. Diacre, je n'avais pas encore appris que le pouvoir de parler et d'agir au nom de Dieu nécessite la révélation. Et pour l'avoir, quand on en a besoin, il faut prier et œuvrer avec foi pour avoir la compagnie du Saint-Esprit. La veille du jour de collecte des offrandes de jeûne, j'avais fait ma prière avant de me coucher. Mais pendant les semaines et les mois qui ont précédé cet appel téléphonique venant de l'hôpital, j'avais suivi le modèle de la prière et avais fait l'effort enseigné par Joseph F. Smith qui permet à Dieu de nous donner l'inspiration nécessaire pour que nous ayons du pouvoir dans la prêtrise. Et il a dit simplement, je cite, « Nous n'avons pas besoin de le supplier avec de nombreuses paroles, nous n'avons pas besoin de le lasser par de longues prières. Ce qu'il nous faut et ce que nous devons faire, nous, saints des derniers jours, pour notre propre bien, c'est nous présenter souvent devant lui, lui témoigner que nous nous souvenons de lui et que nous sommes disposés à prendre son nom sur nous, à respecter ses commandements et à accomplir ce qui est juste. » Puis il nous a dit, ce pourquoi nous devons prier, nous, serviteurs engagés à parler et à agir pour Dieu. Il a dit, je cite, « Que demandez-vous dans vos prières ? Vous priez pour que Dieu vous reconnaisse, pour qu'il entende vos prières. Les mots qu'on utilise n'ont pas tant d'importance, mais il faudra de la patience. C'est une manière d'aborder votre Père Céleste, dans l'intention qu'il vous reconnaisse personnellement. Fin de citation. Il est le Dieu au-dessus de tout, le Père de tous, et pourtant il est prêt à accorder son attention tout entière à l'un de ses enfants. C'est sans doute pour cela que le Sauveur a utilisé les mots « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Fin de citation. Il est plus facile d'être recueilli quand vous vous agenouillez ou baissez la tête. Mais il est possible de ressentir que vous vous approchez de votre Père Céleste de manière moins formelle et même en prière silencieuse, comme vous aurez souvent besoin de le faire dans le service de la prêtrise. Il y aura du bruit et des gens autour de vous la plupart du temps, la plus grande partie de votre journée. Dieu entend vos prières silencieuses, mais il vous faudra peut-être apprendre à ignorer les distractions, parce que le moment où vous aurez besoin du lien avec Dieu peut ne pas venir en des temps paisibles. Le président Smith suggère que vous aurez besoin de prier pour que Dieu reconnaisse votre appel à le servir. Il connaît déjà votre appel dans tous les détails. Il vous a appelé. Et si vous le priez au sujet de votre appel, il révélera plus de ce que vous devez savoir. Je vais vous donner un exemple de ce qu'un instructeur au foyer peut demander dans la prière. Vous savez peut-être déjà que vous devez rendre visite à chaque membre, l'exhortant à prier à haute voix et en secret, et à remplir tous ses devoirs de famille. Toujours veiller sur les membres de l'Église, être avec eux et les fortifier. Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans l'Église, ni de dureté réciproque, ni de mensonges, de calomnies ou de médisances. Et veiller à ce que les membres de l'Église se réunissent souvent et à ce que tous les membres fassent leurs devoirs. Fin de citation. Maintenant, pour l'instructeur au foyer expérimenté, son jeune compagnon, c'est clairement impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Pensez aux familles, ou même aux personnes que vous êtes appelées à servir. Votre jugement humain et vos bonnes intentions ne suffiront pas. Vous prierez donc pour connaître les cœurs, pour savoir ce qui manque dans la vie et le cœur des personnes que vous ne connaissez pas bien et qui ne sont pas très anxieux que vous sachiez. Vous devrez savoir ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour les aider, et le plus possible, avec le sentiment que Dieu les aime. C'est parce que vous avez des appels de la prêtrise si importants et difficiles que le président Smith a suggéré que lorsque vous priez, vous demandiez toujours à Dieu de vous accorder son esprit. Vous aurez besoin du Saint-Esprit chaque fois que Dieu vous l'accordera comme compagnon constant. C'est pour cela que nous devons toujours prier Dieu de nous guider quand nous servons ses enfants. Parce que nous ne pouvons pas atteindre le potentiel de notre prêtrise sans la compagnie de l'Esprit, vous êtes une cible personnelle de l'ennemi de tout bonheur. S'il peut vous tenter de pécher, il peut affaiblir votre capacité d'être guidé par l'Esprit et ainsi réduire votre pouvoir dans la prêtrise. C'est pourquoi le président Smith a dit que vous devez toujours prier de vous avertir et de vous protéger du mal. Il nous avertit de nombreuses façons. Les avertissements font partie du plan du salut. Les prophètes, les apôtres, les présidents de pieux, les évêques et les missionnaires élèvent tous la voix d'avertissement pour échapper à la calamité grâce à la foi en Jésus-Christ, au repentir et en contractant et en respectant les alliances sacrées. En tant que détenteur de la prêtrise, vous devez vous associer à la voix d'avertissement du Seigneur. Mais vous devez prêter attention à l'avertissement vous-même. Vous ne survivrez pas spirituellement sans la protection et la compagnie quotidienne du Saint-Esprit. Vous devez prier pour l'obtenir. C'est uniquement avec ce guide que vous serez capable de trouver votre chemin le long du sentier étroit et resserré, à travers les brouillards de ténèbres. Le Saint-Esprit sera votre guide en vous révélant la vérité quand vous étudierez les paroles des prophètes. Obtenir d'être ainsi guidé nécessitera plus qu'une écoute et une lecture désinvolte. Vous devrez prier et œuvrer avec foi pour mettre les paroles de vérité dans votre cœur. Vous devez prier Dieu de vous accorder son esprit, de vous guider vers toute vérité et de vous montrer le bon chemin. C'est ainsi qu'il vous avertira et vous mettra vous mènera sur le bon chemin dans votre vie personnelle et votre service de la prêtrise. La conférence générale donne une excellente occasion de laisser le Seigneur renforcer votre pouvoir de servir dans la prêtrise de Dieu. Vous pouvez vous préparer par la prière. Vous pouvez vous joindre par la foi aux personnes qui prieront. Elles prieront pendant cette conférence pour que nombreuses autres personnes soient bénies. Elles prieront pour que l'Esprit se déverse sur le prophète, porte-parole du Seigneur. Elles prieront pour les apôtres et tous les serviteurs appelés par Dieu, ce qui inclut le diacre, nouvellement appelé, le grand prêtre expérimenté, les jeunes et les plus âgés qui iront bientôt dans le monde des esprits, où ils s'entendront dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Certains de ceux qui recevront cette salutation sont surpris. Ils n'auront peut-être jamais détenu d'office élevé dans le royaume de Dieu sur terre. Certains auront peut-être eu le sentiment que leurs efforts n'avaient porté que peu de fruits ou que certaines possibilités de servir ne leur avaient jamais été données. D'autres penseront peut-être que leur temps de service sur cette terre était plus court qu'ils ne l'espéraient. Ce ne sont pas les offices détenus, ni le temps passé à servir qui pèseront dans la balance du Seigneur. Nous le savons grâce à la parabole des ouvriers dans la vigne du Seigneur qui nous dit que le salaire est le même quelle que soit la durée du service. Ils seront récompensés selon la manière dont ils auront servi. Je connais un homme, un ami cher, dont le service dans la vigne, dans la condition mortelle, s'est achevé hier soir à 11h. Il était traité pour un cancer depuis des années. Pendant ces années de traitement, il a accepté un appel à faire des réunions avec les membres de sa paroisse, dont les enfants avaient quitté le foyer. Il y avait des veuves parmi eux. Son appel était de les aider à trouver du réconfort dans la sociabilité et l'apprentissage de l'Évangile. Quand il reçut le diagnostic définitif, lui disant qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre, son évêque était en déplacement pour affaires. 2 jours plus tard, il a envoyé un message à son évêque par l'intermédiaire de son chef de groupe des grands prêtres. Il a dit de son appel, « Comme l'évêque est en déplacement, je suis en action. Je pense à une réunion pour notre groupe lundi prochain. 2 membres pourraient nous emmener visiter le centre de conférence. Nous demanderons à des membres de nous conduire et à des scouts de pousser les fauteuils roulants. En fonction des personnes qui s'inscriront, nous aurons peut-être assez de personnes âgées pour le faire nous-mêmes. Mais ce serait bien de savoir quand qu'on a du soutien si nécessaire. Ce pourrait aussi être une bonne sortie en famille pour les accompagnateurs. Ils pourraient emmener leur famille. Faites-moi savoir ce que vous en pensez avant que j'affiche le plan. Merci. » Ensuite, il a surpris l'évêque en lui téléphonant. Sans parler de sa maladie ni de ses efforts vaillants, il a demandé, « Frère, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?» Seul le Saint-Esprit aurait pu lui permettre de sentir le poids que l'évêque avait sur ses épaules alors que son propre fardeau lui l'écrasait tant. Et seul l'Esprit aurait pu lui permettre de concevoir un plan pour servir ses frères et sœurs avec autant de précision que lorsqu'il planifiait des activités scouts dans sa jeunesse. Si nous le prions avec foi, Dieu peut nous accorder du pouvoir dans la prêtrise, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de demander humblement que l'Esprit nous montre ce que Dieu veut que nous disions et fassions, d'agir et de continuer de mener une vie digne de ce nom. Je témoigne que Dieu le Père vit, qu'il nous aime et entend nos prières. Je témoigne que Jésus est le Christ vivant, dont l'expiation nous permet d'être purifiés et rendus dignes de la compagnie du Saint-Esprit. Je témoigne que par notre foi et notre diligence, nous pourrons un jour entendre les paroles qui nous apporteront la joie. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je prie pour que nous soyons accueillis par cette merveilleuse bénédiction du Maître que nous servons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Nous remercions votre présence ce soir. Nous remercions aussi le chœur pour sa musique inspirée. Et nous remercions tous ceux qui ont participé à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera notre bien-aimé prophète Thomas Monson. Après son discours, le chœur chantera « Maître, la tempête lance ». Et Robert Seagate fera la prière de clôture.
One of my most vivid memories.
Je me souviens particulièrement bien du jour où, diacre récemment ordonné, j'ai assisté à une réunion de la prêtrise et que nous avons chanté le cantique d'ouverture « Que tous les fils de Dieu dotés de la prêtrise ». Ce soir, devant tous les frères rassemblés ici dans le centre de conférence et en fait partout dans le monde, dans l'esprit de ce cantique touchant, je vous dis « Venez, vous tous, fils de Dieu qui avez reçu la prêtrise ». Réfléchissons à nos appels et à nos responsabilités. Déterminons notre devoir et suivons Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien que notre âge, nos coutumes et notre nationalité puissent être différentes, nous sommes unis dans notre appel de la prêtrise. Le rétablissement de la prêtrise d'Aaron, Oliver Cowdery, à Joseph Smith, par Jean-Baptiste, est très important pour chacun de nous. De même, le rétablissement de la prêtrise de Melchizedek à Joseph et Oliver par Pierre, Jacques et Jean est un événement que nous chérissons. Prenons très au sérieux les appels, les responsabilités et les devoirs qui accompagnent la prêtrise que nous détenons. J'ai ressenti une grande responsabilité quand j'étais appelé être le secrétaire de mon collège de diacres. Je préparais très soigneusement les registres que je conservais, car je voulais faire au mieux de ma connaissance dans cet appel. J'étais très fier de mon travail. J'ai toujours eu pour objectif de donner le meilleur de moi-même dans tous les postes que j'ai occupés. J'espère qu'on a permis à chaque jeune homme qui a été ordonné à la prêtrise d'Aaron de s'éveiller spirituellement à la sainteté de son ordination et qu'on lui a aussi donné les occasions de le magnifier. J'en ai reçu l'occasion en tant que diacre lorsque l'épiscopat m'a demandé d'apporter la Sainte Cène à un invalide qui vivait à plus d'un kilomètre de l'église. Ce dimanche matin-là, lorsque j'ai frappé à la porte de Frère Wright, et que j'ai entendu sa faible voix me dire d'entrer, j'ai pénétré non seulement dans son noble demeure, mais également dans une pièce remplie de l'Esprit du Seigneur. Je me suis approché de son lit et j'ai posé soigneusement un morceau de pain sur ses lèvres. J'ai tenu ensuite la coupe d'eau pour qu'il puisse boire. À mon départ, il m'a dit les larmes aux yeux, « Que Dieu te bénisse, mon garçon. » Et Dieu m'a effectivement béni en me donnant de la reconnaissance pour les emblèmes sacrés de la Sainte Cène et pour la prêtrise que je détenais. Aucun diacre, aucun instructeur et aucun prêtre de notre paroisse n'oubliera jamais les visites mémorables au cimetière de Clarkston en Utah, où est enterré Martin Harris, un des trois témoins. Tandis que nous entourions la grande pierre tombale de granit qui marque l'emplacement de sa tombe et écoutions l'un des dirigeants du collège nous lire ces paroles marquantes du témoignage de trois témoins qui se trouve au début du livre de Mormon, nous avons acquis de l'amour pour ce livre sacré et pour les vérités qui s'y trouvent. Durant ces années, notre objectif était de devenir Comme les fils de Mosia, voici ce qu'on lisait d'eux. Ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence. Ils avaient sondé diligemment les Écritures, afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. Et lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient avec une puissance et une autorité venant de Dieu. Je ne peux penser à un objectif plus noble pour un jeune homme que celui d'être comparé au fils de Mosia qui était vaillant et juste. Alors que j'approchais de mon 18e anniversaire et que je me préparais à commencer mon service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été recommandé pour recevoir la prêtrise Melchizedek. Mais je devais tout d'abord téléphoner à Paul C. Child, mon président de pieu, pour avoir un entretien. C'était quelqu'un qui aimait et comprenait les Saintes Écritures. Il voulait que tout le monde les aime et les comprenne aussi. Comme j'avais su par des amis que ces entretiens étaient plutôt détaillés et approfondis, je désirais le moins possible lui exposer ma connaissance des Écritures. Par conséquent, lorsque je l'ai appelé, j'ai proposé que nous rencontrions le dimanche suivant, à un moment qui, je le savais, tombait juste une heure avant la réunion de Sainte-Seine. Il m'a répondu, « Oh, frère Monson, cela ne nous donnerait pas suffisamment de temps pour approfondir les Écritures. » Il m'a ensuite proposé de venir 3 heures avant sa réunion de Sainte-Seine. Et il m'a demandé d'apporter mon exemplaire des Écritures, celui que je marquais. Lorsque je suis arrivé chez lui ce dimanche-là, il m'a chaleureusement accueilli, puis l'entretien a commencé. Le président Child m'a dit, « Frère Monson, vous détenez la prêtrise d'Aaron. Avez-vous déjà bénéficié du ministère d'ange ?» J'ai répondu que ce n'était jamais arrivé. Lorsqu'il m'a demandé si je savais que j'y avais droit, j'ai de nouveau répondu que je l'ignorais. Il m'a demandé, « Frère Monson, récitez-moi par cœur la 13e section des Doctrines Alliance. » J'ai commencé, à vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange. Fin de citation. Stop, m'a dit Fred Child. Puis, sur un ton calme et bienveillant, il m'a recommandé, frère Monson, n'oubliez jamais qu'en tant que détenteur de la prêtrise d'Aaron, vous avez droit au ministère d'ange. C'était presque comme si un ange se trouvait dans la pièce ce jour-là. Je n'ai jamais oublié cet entretien. Je ressens encore l'esprit qui s'est manifesté lors de cette occasion solennelle où nous avons lu ensemble des passages concernant les responsabilités, les devoirs et les bénédictions de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Melchizedek. Des bénédictions qui ne viennent pas seulement à nous, mais à toute notre famille, à tous ceux qui ont l'occasion de servir. J'ai été ordonné ancien, et le jour de mon départ en service actif dans la marine, un membre de l'épiscopat de ma paroisse était à la gare avec ma famille et mes amis pour me dire au revoir. Juste avant le départ du train, il m'a mis dans la main un petit volume intitulé « Manuel d'instruction du missionnaire ». J'ai dit en riant que je n'allais pas en mission. Il a répondu, « Prends-le quand même, il pourrait être utile. » Il l'a été. J'avais besoin de mettre un objet rectangulaire et rigide au fond de mon sac de marin pour mieux tenir en place mes vêtements et moins les froisser. Le manuel d'instruction du missionnaire était exactement ce qu'il me fallait, et il m'a bien servi pendant 12 semaines au fond de ce sac de marin. La veille de notre permission de Noël, nous pensions à notre foyer. La caserne était tranquille. Lorsque le silence a été rompu par mon camarade du lit voisin, un membre de l'église, qui s'appelait Leland Merrill, qui a commencé à gémir de douleur. Je lui en ai demandé la raison, et il m'a répondu qu'il était vraiment malade. Il ne voulait pas aller à l'infirmerie de la caserne, car il savait que s'il y allait, il ne pourrait pas rentrer chez lui le lendemain. Son état avait l'air d'empirer au fil des heures. Finalement, sachant que j'étais ancien, il m'a demandé de lui donner une bénédiction. Je n'avais jamais donné de bénédiction auparavant. Je n'en avais jamais reçu et je n'y avais jamais assisté. Alors que je priais silencieusement Dieu de m'aider, je me suis souvenu du manuel d'instruction du missionnaire au fond de mon sac de marin. J'ai rapidement vidé le contenu de mon sac et j'ai sorti ce livre dans la pénombre de la nuit. J'ai lu « Comment bénir les malades ». Devant de nombreux marins curieux qui regardaient, j'ai donné la bénédiction. Avant que je puisse ranger toutes mes affaires dans mon sac, Leland Merrill dormait comme un enfant. Il s'est réveillé le lendemain matin en bonne santé. La reconnaissance que chacun de nous éprouvait pour le pouvoir de la prêtrise était immense. Au fil des ans, j'ai eu plus d'occasions de donner bénédiction aux personnes dans le besoin que je ne peux en compter. Chaque fois, j'ai été profondément reconnaissant que Dieu m'ait confié ce don sacré. Je respecte la prêtrise. J'ai été témoin de son pouvoir de nombreuses fois. J'ai vu sa force. Je me suis émerveillé des miracles qu'elle a opérés. Frères, à chacun de nous a été confié l'un des dons les plus précieux jamais conférés à l'homme. Si nous honorons notre prêtrise et vivons de manière à être dignes en tout temps, les bénédictions de la prêtrise se déverseront par notre intermédiaire. J'aime les paroles que l'on trouve à la section 121 des Doctrines d'Alliance au verset 45, qui nous disent ce que nous devons faire pour être dignes. Je cite, « Que tes entrailles soient remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères en la foi, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. En tant que détenteurs de la prêtrise de Dieu, nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à son appel. Nous sommes à son service. Apprenons de lui. Suivons ses pas. Suivons ses préceptes. Ce faisant, nous serons préparés pour accomplir tous les services auxquels il nous appelle. C'est son œuvre. Cette église est la sienne. Il est véritablement notre capitaine, le roi de gloire. Le Fils de Dieu. Je témoigne qu'il vit et j'en rends témoignage en son saint nom, le nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh, yeah. Our beloved Father in heaven,
notre Père Céleste bien-aimé, la clôture de cette réunion de la prêtrise de Dieu sur la terre, nous te remercions pour le privilège d'être un membre de la prêtrise. Nous te remercions pour les messages qui ont été dits et pas exprimés, qui ont été inspirés par la voix du Saint-Esprit. Nous aimons notre prophète, Thomas S. Monson. Nous aimons notre première présidence. Nous prions pour que tes bénédictions soient sur eux, de toutes les manières possibles. Père, nous te prions pour que le Saint-Esprit nous aide à examiner nos cœurs, à examiner nos ministères. Nous prions d'avoir le pouvoir de ce même esprit pour remplir notre appel saint, pour bénir nos familles et pour servir le monde. Nous prions, nous demandons une bénédiction particulière pour la génération montante des jeunes adultes, afin que la barre puisse être élevée. Alors que nous rentrons à la maison ce soir, nous prions pour ta protection et nous offrons nos remerciements pour le Sauveur de ce monde, pour son expiation, pour son triomphe que nous célébrons demain. Et ces choses, nous les disons au nom de Jésus-Christ. Amen.